RFI, 8h à Paris, 7h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Et Gaëtan Plenet pour le journal. Des journalistes palestiniens ciblés s'ils essaient de faire voler un drone pour filmer les ruines de Gaza. C'est ce que révèle le Gaza Project.
Et RFI a participé à cette enquête réunissant des journalistes experts de 12 médias internationaux. On y consacre à nouveau notre dossier du jour dès le début de cette édition. Dans ce journal également, la Russie qui veut placer l'Ukraine sous administration transitoire le temps d'organiser des élections. La visite de J.D. Vance, le vice-président américain sur une base militaire américaine au Groenland, alors que les États-Unis multiplient les menaces d'annexion de ce territoire danois semi-autonome, tandis qu'au Canada, la course électorale est perturbée par les menaces de guerre commerciale avec Washington. En Haïti, un nouveau policier kényan de la force multinationale tué dans une embuscade tendue par les gangs armés. On va revenir aussi sur la démission en France d'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée et plus proche collaborateur du chef de l'État. Et puis les astrophysiciens pleurent la fin de Gaïa, mission spatiale qui aura permis de livrer la carte la plus précise jamais réalisée de la Voie lactée avec près de 2 milliards d'étoiles. Mais d'abord, le sud de l'Asie, secoué par un tremblement de terre il y a quelques minutes maintenant, une magnitude de 7,7 selon l'Institut géologique américain. L'épicentre serait situé en Birmanie, mais les secousses ont été ressenties jusqu'en Thaïlande ou encore dans le sud-ouest de la Chine. Pas beaucoup plus d'informations pour l'instant sur d'éventuels dégâts ou victimes, mais on y revient évidemment dès qu'on a plus de précisions.
Hier, à la même heure sur RFI, on vous racontait l'histoire de Fadi Al-Waidi.
Un journaliste palestinien paralysé depuis une balle reçue au cou alors qu'il couvrait la guerre dans la bande de Gaza. Cette histoire, vous pouvez la retrouver sur notre site internet dans le cadre du Gaza Project, une enquête collaborative sous la houlette de Forbidden Stories, menée par une quarantaine de journalistes et experts de 12 médias internationaux. À Radio France Internationale en fait partie. Ce matin, deuxième partie de cette enquête, coup de projecteur cette fois sur ceux qui sont à la fois journalistes palestiniens et dronistes aussi, et qui ont tenté ces derniers mois de documenter les destructions causées par les bombardements israéliens en les filmant depuis le ciel. Bonjour Nicolas Falaise.
Bonjour.
Journaliste au service international de RFI, vous avez collaboré à ce Gaza Project et vous avez donc enquêté avec Sami Boukhalifa, notre envoyé spécial permanent à Jérusalem, sur ces Palestiniens régulièrement ciblés s'ils essaient de faire voler un drone pour filmer les ruines de Gaza. Nicolas, les témoignages sont évidemment très rares. Vous avez pu recueillir celui de l'un de ces journalistes opérateurs de drones.
Oui, il s'appelle Shadi Al-Tabatibi. Avant la guerre, il aimait filmer Gaza vu du ciel. Ses rues, son rivage baigné par les eaux bleues de la Méditerranée. Il filme avec son drone et partage ses images sur les réseaux sociaux. Mais en octobre 2023, immédiatement après les attaques du Hamas, les bombardements israéliens commencent et les images de Shadi changent de couleur. Elles deviennent grises comme les ruines des bâtiments, grises comme les colonnes de fumée qui s'élèvent au-dessus du territoire bombardé.
Et cette activité journalistique devient rapidement très dangereuse.
Et c'est Shadi lui-même qui nous le raconte. Il s'est confié à Sami Bourlifa de RFI dans le cadre du Gaza Project de Forbidden Stories.
Durant cette guerre, c'est devenu très dangereux d'être opérateur de drones à Gaza. Je travaillais en binôme avec Mostafa Touraya, un ami. Je filmais pour Reuters et Mostafa pour Al Jazeera. Nous devions aller tourner ensemble lorsque ma femme m'a appelé pour me dire que notre fille avait rendez-vous pour un vaccin. Mostafa est donc parti tourner sans moi et il a été tué. Ce jour-là, moi, le passionné de drones, j'ai ressenti une aversion pour les drones. J'ai détesté le métier de journaliste.
Une frappe israélienne a donc tué Mostafa, le collègue et ami de Shadi. Et ce n'est pas un cas isolé, Nicolas.
Depuis le début de la guerre à Gaza, au moins 5 journalistes opérateurs de drones ont été tués ou blessés par des frappes de l'armée israélienne. Contacté par les médias du consortium, l'armée israélienne rejette, je cite, catégoriquement l'allégation d'attaque systémique contre les journalistes. Mais des sources israéliennes citées dans l'enquête confirment que les drones des journalistes palestiniens sont bien dans le viseur de l'armée israélienne. Conséquence, eh bien, les drones ne volent plus. Ils cessent de témoigner de la dévastation et Shadi Al-Tabatibi a même décidé de quitter la bande de Gaza.
À ce moment-là, je me suis dit, il faut que je quitte Gaza. J'étais terrifié. Je me disais, ils peuvent me tuer à tout moment, même dans mon sommeil. Car je savais que les Israéliens pouvaient traquer mon téléphone. Alors le soir, je déposais mon téléphone à un endroit, puis je rentrais chez moi. J'avais tellement peur pour ma famille et mes proches.
Alors Nicolas, l'enquête de Forbidden Stories va plus loin que le récit de cette menace qui plane sur les journalistes palestiniens. Le consortium de médias est parvenu à tourner et à diffuser des images de Gaza vue du ciel.
Elles sont à découvrir sur RFI.fr et sur le site internet de Forbidden Stories. Une modélisation en 3D de plusieurs quartiers de Gaza filmée à l'aide d'un drone. C'est en les visionnant ces images que l'on comprend l'ampleur des destructions à Gaza. Et c'est ce que voulaient montrer les journalistes palestiniens qui ont été touchés par des frappes alors qu'ils faisaient voler leur drone.
Et l'auteur de ces prises de vue a d'ailleurs lui-même été tué dans une frappe dans les jours qui ont suivi son travail pour Forbidden Stories.
Oui, il s'appelait Mahmoud Islem Al-Bassos, tué le 15 mars dernier dans une frappe israélienne qui a coûté la vie à au moins 7 Palestiniens. Certains d'entre eux, dont Mahmoud, travaillaient ce jour-là pour une ONG humanitaire basée à Londres. L'armée israélienne parle pourtant de terroristes du Hamas opérant sous couverture journalistique.
Merci Nicolas Falaise. Ces images et ces témoignages exceptionnels dans le cadre du Gaza Project sont donc à retrouver sur RFI.fr. C'était aussi le thème de décryptage hier soir avec Véronique Rigolet. C'est à retrouver là encore sur notre site internet. Et au Caire, on affirme qu'une délégation égyptienne est arrivée à Doha pour des pourparlers sur un retour au cessez-le-feu, un échange entre otages israéliens et prisonniers palestiniens, ainsi que sur la reprise de l'aide humanitaire à Gaza. Selon des sources proches du Hamas, le mouvement islamiste palestinien participerait à ces discussions. L'armée israélienne, elle, annonce ce matin avoir repéré deux projectiles, dit-elle, tirés depuis le Liban vers le territoire israélien. Hier, malgré la trêve en vigueur entre Israël et le Hezbollah, les autorités libanaises ont affirmé que 6 personnes avaient été tuées dans des frappes israéliennes.
En Ukraine, les forces russes ont l'initiative stratégique sur toute la ligne de front.
Oui, c'est ce qu'affirme le président russe Vladimir Poutine en visite à Mourmansk, dans le nord-ouest de la Russie. Il y a des raisons qui portent à croire que nous allons les achever, dit-il, proposant également des discussions sur l'idée d'une administration transitoire pour l'Ukraine qui serait placée sous l'égide des Nations Unies.
En attendant, si la Russie peut espérer une levée des sanctions américaines, pour ce qui est des sanctions européennes, c'est non.
Oui, c'est unanime. Hein. Les dirigeants d'une trentaine de pays, majoritairement européens, l'ont dit d'une même voix hier à Paris, au cours d'un sommet réunissant les soutiens de Kiev, pour parler notamment des garanties de sécurité en cas d'accord de cessez-le-feu. Un sommet auquel participait le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et aujourd'hui, c'est au tour du président libanais Joseph Aoun d'être reçu aujourd'hui à Paris par Emmanuel Macron. C'est son premier déplacement officiel en Occident depuis son élection en janvier. Ils vont parler, nous dit l'Élysée, de la sécurité, notamment sur la frontière syro-libanaise.
RFI 5h08 à Nuuk, au Groenland.
Un territoire danois semi-autonome dont les États-Unis de Donald Trump disent vouloir prendre possession, déclenchant une crise diplomatique avec le Danemark. Et ça risque de ne pas s'arranger puisque le vice-président américain J.D. Vance et son épouse sont attendus ce matin au Groenland sur la base américaine de Pitufik, seule emprise militaire américaine dans l'Arctique. Ça agace les responsables politiques et ça agace aussi les Groenlandais. Damien De Georges est consultant et spécialiste de l'Arctique.
Là, on est sur une phase qui n'a plus rien à voir avec la tolérance passive. C'est que les Groenlandais ont manifesté dans la capitale Nuuk récemment, dire qu'ils en avaient assez. Hein. Il y a même des slogans maintenant, le MAGA américain, le Make America Great Again, qui est devenu Make America Go Away. On est arrivé à un point qu'un parlementaire danois, qui est accessoirement le président de la commission défense au Parlement danois, qui a demandé à ce que le consulat américain à Nuuk soit fermé le plus rapidement possible. C'est un niveau de tension qui est sans précédent.
Des propos recueillis par Vincent Souriau.
Les portes de la Chine vont s'ouvrir de plus en plus grand, promet Xi Jinping.
Il s'exprimait à Pékin lors d'une rencontre avec des investisseurs étrangers qu'il espère attirer dans son pays pour faire face à la guerre commerciale lancée par le président américain Donald Trump.
Et ça ne touche pas que la Chine.
Un mercredi, le locataire de la Maison Blanche a aussi annoncé des droits de douane supplémentaires de 25% sur les automobiles fabriquées hors des États-Unis. Conséquence, le constructeur automobile américain General Motors a chuté de plus de 7% hier soir à la bourse de New York. On tremble aussi au Canada, où cette nouvelle tempête politico-économique vient perturber la course électorale qui est en cours. Correspondance à Montréal de Nafia Libert.
Il devait amorcer sa campagne électorale à Québec, mais c'est à Ottawa que Mark Carney a finalement dû passer sa journée d'hier, forcé de convoquer une réunion d'urgence avec son cabinet sur les relations canado-américaines pour riposter aux droits de douane imposés la veille par les États-Unis.
Nous reprendrons avec force.
Le fossé entre les deux voisins se creuse et Mark Carney affiche clairement ses distances avec l'administration américaine actuelle.
Il est évident que les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable.
Son discours reste ferme et sans équivoque.
Il n'y aura pas de retour en arrière. Le prochain gouvernement et tous ceux qui suivront auront un relation fondamentalement différente avec les États-Unis.
Le Premier ministre canadien devrait discuter de la question au téléphone avec le président américain d'ici samedi. Ce sera une première puisque les deux dirigeants ne se sont toujours pas parlé. Pour l'heure, Mark Carney n'a pas précisé quelles mesures concrètes seront prises contre les États-Unis. Il doit rencontrer aujourd'hui ses homologues des différentes provinces pour en discuter. Les tarifs de 25% appliqués à l'industrie automobile, eux, entreront en vigueur la semaine prochaine, en plus d'autres droits de douane que Donald Trump avait suspendus jusqu'au 2 avril. Nafia Libert, Montréal, RFI.
C'était en début de semaine en Haïti. Pour la deuxième fois en un petit peu plus d'un mois, un policier kényan a été tué.
Il s'appelait Bénédicte Kabirou et il était officier de la force multinationale déployée dans le pays pour lutter contre les groupes armés. Il a perdu la vie dans une embuscade tendue par les gangs dans le département de l'Artibonite et qui illustre cette embuscade une fois de plus, Vincent Souriau, les lacunes de la stratégie policière mise en place par le gouvernement haïtien.
Les gangs avaient tout prévu. Ils savaient que la police haïtienne patrouillerait dans un véhicule blindé, lourd et difficile à manœuvrer. Alors ils ont creusé des tranchées, camouflé leurs traces. Et lorsqu'un convoi de police est passé, il s'est enlisé dans une zone agricole. Mais les groupes criminels n'ont pas attaqué tout de suite. Ils ont attendu que les renforts arrivent pour remorquer cet engin. Renforts issus de la force multinationale dirigée par le Kenya, qui à leur tour se sont retrouvés pris au piège. Bénédicte Kabirou a pris une balle dans la gorge. Il n'a pas survécu et ses collègues obligés de fuir, ont abandonné son cadavre. Les gangs s'en réjouissent. Une mise en scène répugnante circule dans plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux. On y voit des hommes gifler sa dépouille à plusieurs reprises et réclamer, en riant, une rançon au président kényan s'il veut un jour revoir le corps de Bénédicte Kabirou.
En France, il était l'homme qui murmurait à l'oreille du président.
Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée et plus proche collaborateur du chef de l'État, il démissionne. Il quittera officiellement ses fonctions le mois prochain. Stéphane Duguay.
Emmanuel Macron perd son bras droit, son deuxième cerveau, comme certains le surnomment. Alexis Kohler quitte l'Élysée où il était un rouage essentiel chargé de traduire concrètement les engagements politiques du chef de l'État. Les deux hommes ont commencé à travailler ensemble à Bercy en 2014. Alexis Kohler était alors le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie, puis artisan de sa victoire en 2017. Un proche parmi les proches qui a résisté aux secousses des deux quinquennats et aux affaires judiciaires. Alexis Kohler est accusé de prise illégale d'intérêt dans l'affaire de l'armateur MSC, fondé et dirigé par les cousins de sa mère, soupçonné aussi de trafic d'influence dans le cadre de la fusion Veolia-Suez. Le désormais ex-secrétaire général était discret, il n'apparaissait à la télévision que pour annoncer les gouvernements des six premiers ministres d'Emmanuel Macron, plus rarement lors de commissions d'enquête comme au Sénat sur l'affaire Benalla. Récemment, il avait même refusé de se rendre à l'Assemblée pour répondre aux députés sur le dérapage des finances publiques. Alexis Kohler quitte l'Élysée pour le secteur privé où il devrait prendre un poste dans la banque.
Oui, ça vient d'ailleurs tout juste d'être confirmé. Il y a quelques minutes, il est nommé directeur général adjoint de la Société Générale.
Et puis c'est aussi la fin d'une ère dans les airs.
Gaïa, c'est fini. Ce n'était pas, c'est vrai, la plus connue des missions spatiales, mais c'était la chouchoute des astrophysiciens. Depuis 2013, ce satellite de l'Agence spatiale européenne offrait la carte la plus précise jamais réalisée de la Voie lactée, Simon Rosé.
3000 milliards de mesures en plus de 11 ans, 1 milliard 800 millions d'étoiles cartographiées, 13 000 papiers scientifiques publiés grâce à ces données, des milliers d'autres dans les cartons. Gaïa est probablement la mission spatiale la plus prolifique dont vous n'ayez jamais entendu parler. Et pourtant, sa renommée est incomparable chez les astrophysiciens. Son catalogue d'étoiles, leur position, leur mouvement permet de retracer l'histoire de notre galaxie. La Voie lactée, dévoreuse d'autres galaxies. Éric Lagadec, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur.
Formé par l'assemblage de plus petites galaxies, donc on arrive à voir notamment les flots d'étoiles qui viennent de différentes galaxies, on arrive à mieux comprendre en observant, en faisant ce qu'on appelle de l'archéologie galactique, on regarde des étoiles qui sont un petit peu les reliques des galaxies où elles sont nées avant et on comprend mieux la formation de notre galaxie qui est assez complexe.
Née il y a 11 milliards d'années, la Voie lactée poursuit d'ailleurs sa croissance en se nourrissant aujourd'hui encore de la galaxie naine du Sagittaire. Le catalogue de Gaïa, lui aussi, est amené à grossir si le travail du satellite est achevé. Des milliers et des milliers de données restent encore à traiter et la publication finale de ces observations n'aura lieu qu'en 2030.
À Simon Rosé, puis je vous rappelle cette information dont je vous parlais en début d'édition, ce séisme dans le sud de l'Asie, une magnitude de 7,7 selon l'Institut géologique américain. quotidien avec des secousses ressenties en Birmanie, dans le sud-ouest de la Chine, mais aussi en Thaïlande où le Premier ministre convoque une réunion d'urgence. Toujours pas d'informations sur d'éventuels dégâts ou victimes.
Et on y reviendra évidemment dans toutes nos éditions. Merci beaucoup Gaëtan Planet. À tout à l'heure. Il est 7h15 en temps universel sur RFI, la revue de presse. Le tour de la presse internationale avec vous, Amélie Beaucourt, à la une, l'industrie automobile crispée par les droits de douane décidés par Donald Trump.
Et oui, pour le président américain, tariffs, qui signifie donc droits de douane en anglais, doit sûrement être l'un des plus beaux mots de la langue de Shakespeare, ironise le soir à Bruxelles. Depuis son retour à la Maison Blanche, c'est à un éléphant dans un magasin de porcelaine que le monde a affaire. Pour le quotidien, les 25% de droits de douane sur les voitures importées aux États-Unis, qu'il a décrété mercredi, c'est sa façon de mettre ses rivaux à genoux.
Son objectif, rapatrier la production automobile aux États-Unis, alors que en 2024, près de la moitié des voitures vendues dans le pays étaient importées.
Et cette manière de vouloir torpiller les règles du commerce international aurait dû être davantage réfléchie, selon Libération en France, qui se demande si Donald Trump n'était pas concentré sur sa partie de golf le jour où ses principaux conseillers étudiaient les avantages et inconvénients de la mesure. Parce qu'une voiture aujourd'hui, comme un avion, est produite à plusieurs endroits du monde. Et ce sont surtout les entreprises d'approvisionnement qui risquent le plus d'en souffrir, comme l'estime La Repubblica en Italie. Difficile d'imaginer une Ferrari ou une Lamborghini made in USA. Pourtant, la menace des droits de douane a bien refroidi l'écurie. La marque de voitures au cheval cabré rappelle le quotidien italien. Ses 30 000 véhicules vendus aux États-Unis l'année dernière. Elle a donc choisi d'augmenter ses prix catalogue de 10%.
Mais le malaise est encore plus grand pour les constructeurs américains eux-mêmes.
Oui, c'est ce que révèle le Wall Street Journal. La Maison Blanche se veut rassurante. Les droits de douane seraient formidables, disait le président. Mais en parallèle, c'est la terreur qui régnerait, pointe le quotidien. Trump a averti les constructeurs automobiles américains de ne pas augmenter leurs prix en réponse aux tarifs douaniers. Une menace a été formulée lors d'un appel téléphonique au début du mois au cours duquel les constructeurs automobiles ont craint d'être sanctionnés en cas d'augmentation des prix.
À la une également, l'opposant turc Ekrem İmamoğlu, principal rival du président Erdogan, raconte son arrestation dans le New York Times depuis la prison dans laquelle il a été enfermé.
Tôt le matin du 19 mars, des dizaines de policiers armés se sont présentés à ma porte avec un ordre de détention. La scène ressemblait à la capture d'un terroriste et non à celle du maire élu d'Istanbul. Voilà le début d'un long récit que fait ce vendredi Ekrem İmamoğlu de son arrestation. Spectaculaire, mais guère inattendue. 4 jours avant que le Parti républicain du peuple, son parti, n'organise une primaire pour la prochaine course à la présidence. Il raconte à travers son cas, pas si particulier, la lente érosion de la démocratie turque, une nouvelle étape dans le glissement vers l'autoritarisme et l'arbitraire, estime-t-il, d'un pays qui risque sérieusement de franchir le point de non-retour. Il revient ému sur la mobilisation quasi immédiate de la société civile turque et des dirigeants sociaux-démocrates de Turquie et d'ailleurs. Mais quid des gouvernements centraux du monde entier ? Leur silence est assourdissant, déplore-t-il. Une alerte lancée au monde entier, la démocratie, l'État de droit et les libertés fondamentales ne peuvent survivre en silence, s'exclame l'opposant turc, ni être sacrifiés pour des raisons de commodité diplomatique.
Une lettre d'Ekrem İmamoğlu à retrouver ce matin dans les pages du New York Times. Merci Amélie Beaucourt, très bonne journée. Ce sont des chiffres qui inquiètent depuis quelques années les autorités chinoises, à tel point qu'elles ont pendant un temps arrêté de les publier. Un signe du ralentissement économique, le chômage des jeunes de 16 à 24 ans. Il est en baisse aujourd'hui en Chine, tombé à 15,7%, mais il a atteint au mois d'août un niveau record de 18,8% en raison de l'afflux de nouveaux diplômés. Ils seront 12 millions cette année à sortir de l'université et le fossé continue de se creuser entre leurs attentes et les postes disponibles. Reportage dans une foire à l'emploi à Pékin, Cléa Broderst.
Organisée dans un centre commercial, cette foire réunit une centaine d'entreprises. Ici, des milliers de jeunes Chinois, CV en main, parcourent les différentes allées. Yue, jeune diplômé de 22 ans, estime qu'il est bien plus difficile pour les jeunes de trouver un emploi aujourd'hui que pour les générations précédentes.
Nous sommes nombreux et le coût de la main-d'œuvre a diminué. Cela, combiné au nombre limité de postes, rend la tâche plus difficile pour les personnes ayant un niveau d'éducation similaire au mien. Et puis le report de l'âge de la retraite a un impact sur l'emploi. Il n'y a pas beaucoup de place et tous les postes sont déjà occupés. La plupart des postes disponibles sont dans le domaine de la vente, ce qui ne correspond pas vraiment à ce que je recherche. Mon autre préoccupation, c'est de savoir si une entreprise est digne de confiance ou non.
Li, une jeune mère de jumeaux, espère pouvoir revenir sur le marché du travail après un long congé maternité.
Je travaillais dans le domaine juridique, mais il n'y avait personne pour s'occuper de mes jumeaux à la maison, alors j'ai dû démissionner. Aujourd'hui, les employeurs s'intéressent d'abord à l'âge. Les premières conversations se passent bien, mais dès qu'ils entendent mon âge, ça devient un peu gênant.
Et elle trouve que c'est un énorme défi à relever.
Je le comprends très bien du point de vue de l'entreprise, c'est logique. Mais du point de vue d'une femme, c'est vraiment difficile. Les femmes apportent toujours une contribution silencieuse, qu'il s'agisse des tâches ménagères invisibles ou de la prise en charge des enfants. Et bien sûr, les entreprises vous demanderont « Que ferez-vous de vos enfants ?» Si vous avez un enfant, ils vous demanderont si vous avez l'intention d'en avoir un autre. Et si vous en avez deux, ils supposent que vous n'en aurez probablement pas d'autres.
Chen est allé à plusieurs foires à l'emploi sans succès. Ce jeune homme de 23 ans espère que le gouvernement va mettre les bouchées doubles pour aider la jeune génération.
Je suis déçu, très découragé. Le taux d'emploi des jeunes diplômés est assez bas en ce moment et la pression est intense. Si vous ne vous préparez pas aux études supérieures, vous vous préparez aux examens de la fonction publique qui sont encore plus stressants. Pour ceux qui essaient de trouver un emploi directement, c'est encore plus difficile. J'espère que le gouvernement ou les écoles pourront organiser davantage de salons de l'emploi, peut-être plus fréquemment dans les écoles ou dans la société. S'il pouvait y avoir 2 ou 3 grands salons de l'emploi par mois, cela nous donnerait plus de chances de trouver du travail.
Le chômage des jeunes en Chine a de lourdes conséquences, à la fois sur l'économie et sur la société. Et face à ces défis, Pékin reconnaît l'urgence de réformer le marché de l'emploi en misant sur plus d'opportunités de travail, des aides financières telles que le remboursement d'assurance chômage ou la baisse d'impôts, et enfin un soutien à l'entrepreneuriat. Cléa Broders de Shoshian Yuan, Pékin, RFI.
Notre reportage international en Chine à retrouver sur RFI.fr et notre application Pure Radio. Et un œil à nouveau sur l'Ukraine, alors qu'hier à Paris, le sommet des pays volontaires s'est terminé sur la promesse d'une force de réassurance européenne aux contours encore flous en cas de trêve avec Moscou. Des nouvelles du terrain, alors que ce matin, de son côté, Vladimir Poutine affirme que la Russie a l'initiative stratégique sur l'ensemble du front. Nous partons à Soumy, ville du nord-est de l'Ukraine, régulièrement touchée par les frappes russes. Bonjour Emmanuel Chaz.
Bonjour.
En direct donc de Soumy, où cette semaine un quartier densément peuplé a été touché par un missile. Une centaine de personnes ont été blessées. Les alertes et les frappes ici sont quotidiennes. Emmanuel, que vous disent les habitants à qui vous avez pu parler ?
Eh bien écoutez, la population est éprouvée par ces frappes, par le danger qui est constant. Alors c'est vrai que quand on va dans une ville qui se trouve à la merci des frappes, les gens font un peu moins attention finalement aux alertes aériennes par exemple. C'est ce que j'ai pu remarquer hier, il y avait des drones qui survolaient la ville et finalement les gens rentraient du travail sans faire attention, sans se mettre forcément à l'abri. Mais on sent quand même qu'il y a une tension. Vous savez que cette région de Soumy est voisine de celle de Koursk, où l'armée ukrainienne a perdu une grande partie du terrain qu'elle occupait depuis l'été dernier. Ça se ressent jusqu'ici dans la ville, où on va observer, comme dans toutes les villes qui se trouvent près du front, une forte présence militaire et aussi ce risque accru de frappe. La ville emporte les traces. Il y a des bâtiments qui sont détruits. On voit des bâtiments avec des fenêtres soufflées par les explosions. Donc la guerre est vraiment partout et à plus forte raison ici lorsqu'on se trouve près de la frontière russe.
Vous parlez de la région voisine de Koursk. Où en est-on sur ce front ?
Eh bien, c'est vrai que Volodymyr Zelensky voulait se servir de l'occupation ukrainienne d'une partie de cette région comme monnaie d'échange lors de pourparlers, mais en l'état, l'armée ukrainienne qui avait créé la surprise en août dernier en s'emparant d'une partie de cette région a payé un prix très élevé en hommes et en matériel lors de l'occupation partielle, du contrôle partiel de ce territoire. Et côté ukrainien, on ne sait pas trop ce qui se passe. Silence radio, silence opérationnel, mais les Ukrainiens semblent encore contrôler une bande de territoire dans la région, mais elle est très mince en comparaison avec l'occupation russe en Ukraine.
Et Emmanuel, côté diplomatique, les pourparlers avec les États-Unis ont montré une nouvelle fois l'intransigeance russe face à l'Ukraine. Raison de plus pour Kiev de se tourner vers ses autres alliés.
Oui, tout à fait. Au-delà des effets d'annonce des États-Unis et des grands espoirs que suscite, en tout cas en Occident, toute annonce de pourparlers en vue de mettre fin à la guerre, l'Ukraine, elle, continue d'œuvrer à son plan pour la victoire tel qu'il a été présenté à ses alliés l'an passé. Et depuis le passage à l'administration Trump, ces derniers, et notamment les pays européens, se mobilisent. Alors, cette question de déployer un contingent de maintien de la paix, des forces de maintien de la paix, c'est quelque chose que Kiev attendait depuis longtemps, c'était encore impensable il y a quelques mois, donc de bonnes nouvelles, même si Kiev aimerait voir plus de sanctions contre la Russie pour accentuer la pression contre Moscou.
Emmanuel Chaz, notre correspondante en Ukraine en direct de Soumy avec nous ce matin, merci. RFI bientôt, 7h30, en temps universel. Avant le journal, votre rendez-vous du vendredi pour démêler le faux du vrai, les dessous de l'infox. Avec un coup de projecteur aujourd'hui sur un phénomène à la mode sur les réseaux sociaux, les musiques générées par intelligence artificielle. Et plus particulièrement, ces voix d'artistes mondialement connus détournées pour chanter à la gloire d'une personnalité politique. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Julien.
Vous observez la montée en puissance de ce type d'infox, notamment sur le continent africain, depuis plusieurs semaines. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que personne n'est épargné.
Oui, presque toutes les stars du rap et du R&B sont concernées. Les voix de Beyoncé, Aya Nakamura, Black M, Drake ou encore Ninho sont régulièrement détournées. Côté personnalité politique, la plupart des chefs d'État africains ont eu le droit à leur musique artificielle. Le Béninois Patrice Talon, le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye ou encore le Guinéen Mamadi Doumbouya. Le dernier son en date, publié cette semaine, cible le capitaine burkinabé Ibrahim Traoré. Écoutez.
Ibrahim, t'as pris la route, pas de retour. T'as le courage d'un lion, tu fonces sans détour. Sous le soleil de Ouaga, t'es un phare dans l'ombre. Un leader au cœur grand qui inspire et qui en compte.
Cette voix, vous l'aurez peut-être reconnue, elle imite presque parfaitement celle du rappeur Maître Gims. Autre exemple, en l'honneur cette fois du président ivoirien Alassane Ouattara.
Alassane Ouattara, un goût pour respect, il a pris la main du pays, il a tracé le sillon. Du nord au sud, chaque région connaît son projet, les routes se construisent, les rêves se s'abritent.
Cette fois-ci, c'est la voix du rappeur Booba qui a été détournée, mais soyons clairs, ces sons qui se comptent par dizaines sur les réseaux ne sont pas authentiques. Ils ont été générés via l'intelligence artificielle. En réalité, ni Maître Gims, ni Booba n'a fait l'éloge d'Ibrahim Traoré ou d'Alassane Ouattara en musique.
Et alors, sait-on qui génère ces musiques?
Alors, d'après nos recherches, la plupart d'entre elles proviennent d'un petit nombre de chaînes YouTube qui diffusent régulièrement ce genre de son artificiel. Même s'il faut creuser pour la trouver, la mention générée par IA est bien présente dans la légende. Sur YouTube, ces contenus dépassent rarement les 50 000 vues, mais sur Instagram et TikTok, certaines d'entre elles dépassent les 5 millions de vues.
Et sauf que les comptes qui les repartagent ne mentionnent pas l'utilisation de l'intelligence artificielle.
Et c'est bien là le problème, puisque ce qui a été généré initialement à des fins humoristiques se retrouve utilisé à des fins de désinformation. Des comptes très influents se servent de ces infox pour faire de la propagande, et les commentaires montrent que des milliers d'utilisateurs tombent dans le panneau.
Et Grégory, est-ce que ce type de contenu est facile à produire ?
Alors oui, en utilisant les bons outils, il est possible de générer rapidement et gratuitement ce type de musique artificielle. On peut donc faire dire ce que l'on veut à n'importe quel artiste. Mais attention, certaines législations encadrent la pratique. En France, l'article 226-8 du Code pénal punit d'un an et de 15 000 euros d'amende le fait de porter à la connaissance du public un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l'image ou les paroles d'une personne sans son consentement et s'il n'en est pas fait expressément mention. La plupart des publications sont donc illégales.
Grégory Genevrier, merci beaucoup. Les Dessous de l'Infox, chaque vendredi dans RFI Matin et l'émission Les Dessous de l'Infox à retrouver ce soir à 17h30, temps universel. Très bonne journée. Un mot pour vous rappeler l'actualité qu'on suit de très près, évidemment, ce matin. Ce séisme particulièrement violent d'une magnitude de 7,7 survenu dans le sud de l'Asie. L'épicentre se situerait en Birmanie, mais des secousses ont été ressenties en Chine et en Thaïlande, notamment à Bangkok, la capitale où les bureaux et les magasins ont été évacués. On y a vu des scènes de panique et le premier ministre thaïlandais annonce une réunion d'urgence. On fera le point à 8h temps universel avec notre journaliste au bureau Asie, Heike Schmidt. Et le journal Afrique dans une minute. À tout de suite.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème de demain.
Entreprendre en Afrique avec les conseils du coach Didier Akwété pour les jeunes diplômés. Et puis en deuxième partie d'émission, quel partage de la valeur dans les PME africaines avec les employés.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
L'épopée des musiques noires.
Jupiter & Noquest débarque avec Ekoya, un album trépidant, turbulent, bouillonnant qui fait briller la richesse culturelle du Congo. Fusionnant les traditions de 450 ethnies et des influences mondiales, Jupiter Bokonji défie les clichés et nous invite à sa croisade humaniste. À découvrir en concert le 6 avril dans le cadre du festival Banlieue Bleue et dès ce samedi avec Joe Farmer dans l'épopée des musiques noires à 13h30 TU.
RFI.